Vous écoutez On lit pour vous.
Aide médicale à mourir, le débat ne s'essouffle pas au Canada. Un texte de Sarah Ritchie paru le 16 juin 2026 dans la presse. Ottawa. En 2015, alors que Jocelyn Downey assistait à l'annulation par la Cour suprême du Canada des lois criminalisant l'aide à mourir, elle s'est dit qu'elle ferait mieux de trouver une nouvelle orientation pour le reste de sa carrière. La lutte pour garantir aux Canadiens la possibilité d'obtenir légalement de l'aide pour mettre fin à leurs jours en cas de souffrance intense semblait avoir pris fin avec la décision unanime rendue dans l'affaire Carter C. Canada. Le plus haut tribunal du pays a donné un an au Parlement pour se conformer à sa décision. Madame Downey, professeure de droit à l'Université Dalhousie, qui avait passé près de trois décennies à étudier les lois sur l'aide à mourir, a planifié ses prochaines étapes. « Mais je ne suis jamais arrivée à la question « Que vais-je faire ensuite ?» à cause de ce qui s'est passé », a-t-elle relaté. Le gouvernement libéral a légalisé l'aide médicale à mourir, AMM, le 17 juin 2016. Il a limité l'admissibilité aux personnes dont le décès était raisonnablement prévisible. Les défenseurs du choix autonome, comme Mme Downey, ont estimé que cette restriction n'était pas conforme à l'intention de la Cour dans l'arrêt Carter. Or, d'autres ont averti que cette limite était essentielle pour protéger les personnes vulnérables. Au cours des 10 dernières années, le débat a évolué pour déterminer qui devrait être admissible à l'aide médicale à mourir et dans quelles circonstances, et qui devrait décider de ces garde-fous. En 2021, à la suite d'une décision de la Cour supérieure du Québec, Ottawa a élargi l'admissibilité pour inclure les personnes souffrant d'une affection médicale grave et irrémédiable, dont le décès n'est pas raisonnablement prévisible, ce que l'on appelle désormais la voie 2 de l'aide médicale à mourir. Elle excluait les personnes atteintes de troubles mentaux, une restriction qui devrait prendre fin en mars prochain, à moins que le gouvernement fédéral ne la reporte une troisième fois. Un débat qui sème la division. Dans l'ensemble, les sondages indiquent que la plupart des Canadiens estiment que les personnes devraient pouvoir choisir l'aide médicale à mourir. Un récent sondage de Nanos Research a révélé que 89 % des personnes interrogées appuient l'aide médicale à mourir en cas de maladie en phase terminale et 84 % la soutiennent pour les personnes qui souffrent de manière intolérable mais ne sont pas en fin de vie. Mais le débat public n'est pas moins polarisé ni moins émotionnel qu'avant la loi. Au lieu de discuter de la manière dont les choses pourraient être améliorées, c'est tout simplement très, très moche. Et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, a déclaré Mme Downey. Cette division était évidente dans les témoignages présentés ce printemps devant une commission parlementaire chargée de déterminer si le Canada serait prêt à étendre l'admissibilité à l'aide médicale à mourir aux personnes dont la seule affection sous-jacente est une maladie mentale. Certains témoins ont qualifié l'aide médicale à mourir de « meurtre en série » légalisé, où on fait valoir qu'elle équivalait à un programme d'élimination des personnes vulnérables soutenu par l'État. D'autres, comme Mme Downey, ont soutenu que l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de troubles mentaux était une obligation légale. Des contestations en cours. Cette division ressort également des contestations opposées en cours devant les tribunaux canadiens. Le groupe de défense des personnes en situation de handicap, Inclusion Canada, estime que seules les personnes handicapées sont admissibles à la voie 2 de l'aide médicale à mourir. Il mène actuellement une contestation devant un tribunal de l'Ontario, arguant que la loi est discriminatoire. Le groupe cite un rapport publié l'année dernière par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies qui appelait le Canada à abroger la voie 2 de l'aide médicale à mourir et à se concentrer sur la mise en place de mesures de soutien aux personnes handicapées. La ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, a déclaré lundi que le gouvernement n'avait pas l'intention de modifier la loi en vigueur. Kerry Frock, professeur de droit à l'Université du Nouveau-Brunswick, spécialisée en droit constitutionnel, souligne qu'il y a de solides arguments pour affirmer que la loi actuelle viole les articles 7 et 15 de la Charte des droits en ce qui concerne les personnes handicapées. L'article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, tandis que l'article 15 protège contre la discrimination gouvernementale fondée sur divers facteurs, dont le handicap. Madame Frock souligne qu'elle souhaiterait avoir la possibilité de choisir l'aide médicale à mourir pour elle-même si nécessaire, mais pas au détriment des personnes handicapées. Le groupe de défense de l'AMM, Mourir dans la dignité, Canada, fait valoir dans une autre affaire que le fait d'exclure les personnes atteintes d'une maladie mentale comme seule condition sous-jacente viole leurs droits garantis par la Charte. « Je pense que nous nous dirigeons vers un choc de titans », a prédit Mme Frock. Une nouvelle pratique à apprendre. Cette polarisation laisse de nombreux cliniciens dans ce que la docteure Madeleine Lee qualifie de « flou du milieu ». Il y a 10 ans, elle et d'autres médecins ont dû trouver comment pratiquer une procédure pour laquelle aucun d'entre eux n'avait été formé à la faculté de médecine. Les cliniciens très courageux qui se sont portés volontaires pour effectuer ce travail ont d'abord dû se rendre dans d'autres pays pour apprendre comment le faire, a relaté Dr. Lee, professeure de psychiatrie à l'Université de Toronto et évaluatrice et prestataire d'aide médicale à mourir. Elle a contribué à l'élaboration des politiques et des procédures de l'hôpital où elle travaillait en s'appuyant sur son expérience de psychiatre spécialisée en cancérologie. C'était un mélange complexe de médecine, d'éthique et de droit. Et je pense qu'au début, les médecins se concentraient surtout sur la manière d'éviter la prison, a-t-elle expliqué. Dr. Lee estime faire partie de la majorité des professionnels de santé qui soutiennent l'aide médicale à mourir, mais qui s'inquiètent de l'accent mis sur l'autonomie du patient. Je dirais que ce dont le système a besoin, c'est du concept de prise de décision partagée, a-t-elle indiqué. Croyez-le ou non, c'est en fait une proposition radicale dans le cadre de l'aide médicale à mourir au Canada. Dr. Lee a expliqué que cela signifierait que les médecins pourraient dissuader les patients de recourir à l'aide médicale à mourir s'ils estiment que ce n'est pas dans leur intérêt. Madame Frock a suggéré que le Canada s'inspire des Pays-Bas, où l'accès à l'aide à mourir peut être refusé aux patients s'ils n'ont pas essayé une option thérapeutique disponible. Au Canada, ce sont les patients qui décident si un traitement disponible leur convient. Les détracteurs du système soulignent la croissance exponentielle du nombre de cas d'aide médicale à mourir au cours de la dernière décennie, comme preuve que quelque chose ne va pas. Les dernières données annuelles de Santé Canada montrent que 76 475 personnes ont bénéficié d'aide à mourir entre 2016 et 2024. En 2024, plus de 95 % des personnes ayant bénéficié de l'aide médicale à mourir souffraient d'une maladie en phase terminale, le plus souvent un cancer. Des obstacles aux discussions constructives. La docteure Alexandra McPherson, psychiatre et prestataire d'aide médicale à mourir à Edmonton, a raconté que son travail consistait à s'assurer que les mesures de protection soient respectées et surtout que les patients soient écoutés et entendus. La question centrale est la suivante. Comment permettre aux gens de faire un choix autonome face à des souffrances intolérables et persistantes, a-t-elle déclaré? Dr. McPherson est vice-présidente de l'Association canadienne des évaluateurs et prestataires d'aide médicale à mourir, qui a élaboré un programme national de formation destiné aux cliniciens. Cette formation n'est pas largement dispensée dans les facultés de médecine à travers le pays, une situation qui, selon Mme McPherson, doit changer. Elle a déclaré que la polarisation et la désinformation font obstacle à des discussions constructives. D'un point de vue politique, je pense que c'est un sujet brûlant, car je crois que jusqu'à présent, les gouvernements ont toujours attendu que les tribunaux prennent des décisions pour réagir ensuite, a affirmé Dr. McPherson. Une longue saga juridique. L'arrêt Carter est intervenu 22 ans après une décision partagée de la Cour suprême dans le cadre d'une contestation similaire fondée sur la Charte. La femme au centre de cette affaire, Sue Rodriguez, avait reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Lou Gehrig, et n'avait plus que quelques années à vivre. John Major, un juge à la retraite de la Cour suprême, qui s'était rangé du côté de la majorité dans cette décision prise à 5-4, a confié qu'il éprouvait de la sympathie pour Mme Rodriguez sur le plan personnel, mais qu'il craignait que la législation ne crée les conditions propices à des abus. Je craignais que cela n'ouvre la voie à quelque chose qui pourrait devenir un problème, a indiqué M. Mayer en entrevue. Mme Rodriguez est décédée quelques mois seulement après la décision avec l'aide d'un médecin anonyme. L'un des juges ayant rédigé une opinion dissidente en 1993 était Beverly McLaughlin. En 2015, lorsque l'affaire Carter a été portée devant la Cour, elle était juge en chef de la Cour suprême et l'ensemble des juges partageaient le même point de vue. Aujourd'hui, certaines provinces tracent leur propre voie. L'Alberta a adopté une loi visant, entre autres, à limiter l'aide médicale à mourir aux personnes dont le décès est susceptible de survenir dans les 12 mois. Le Québec, qui affiche le taux d'aide médicale à mourir le plus élevé au monde, permet aux personnes de signer des demandes anticipées afin qu'un médecin puisse respecter leur souhait de mettre fin à leur jour une fois qu'elles auront perdu la capacité de consentir. La ministre Marjorie Michel et le ministre de la Justice, Sean Fraser, ne dévoilent pas ce que le gouvernement prévoit faire concernant l'extension possible de l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladies mentales en mars. Ils attendent que la commission parlementaire formule ses recommandations. Le président de la Commission, le député libéral Marcus Pawlowski, a déclaré que le rapport serait présenté au Parlement mercredi, exactement 10 ans après la législation. C'était « Aide médicale à mourir, le débat ne s'essouffle pas au Canada ». Un texte de Sarah Ritchie paru le 16 juin 2026 dans La Presse.
Redonner vie au patrimoine autochtone. Un texte de Jeff Heinrich, paru le 16 février 2026 sur le site de l'UDM. Des biens culturels de premier peuple de la collection ethnographique du département d'anthropologie de l'UDM deviennent des outils pédagogiques grâce à des témoignages sur vidéo. Il y a le patrimoine culturel et il y a les voix. Et maintenant, les deux ne font plus qu'un. À l'Université de Montréal, sur les 4000 objets de la collection ethnographique du département d'anthropologie, environ 500 sont des biens culturels autochtones des communautés Atikamekw, Nihiro-Wissi, Innu et Inuit. Inuinahit, Netsilingmiut et Nunavimiut. En classe et en ligne, ces objets, des raquettes et des porte-bébés, des couteaux à neige et des lampes à huile, peuvent susciter l'intérêt des apprenants pour l'histoire, la géographie et l'anthropologie, les aider à comprendre différentes sociétés et différents territoires, piquer leur curiosité pour le patrimoine et développer leur sensibilité culturelle. Mais jusqu'à récemment, il manquait à la collection des voix pour leur redonner vie, à savoir les témoignages des membres des communautés autochtones qui détiennent les connaissances culturelles nécessaires pour interpréter l'histoire derrière les objets et leur signification. Aujourd'hui, grâce à une initiative d'un spécialiste de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UDM et des membres de l'équipe du projet, ces voix peuvent être entendues. Le projet s'intitule « Rencontre au cœur de la collection ethnographique » et est dirigé par Kevin Péloquin, professeur adjoint au département de didactique de la faculté. Ce projet de 25 000 $ qui a nécessité un an de travail, fait également appel à la conservatrice de la collection Violaine de Bailleul, la conseillère en engagement et innovation sociale des bibliothèques de l'Université de Montréal, Marie-Pierre Gadois, et deux organismes autochtones, la Boîte Rouge VIF, basée à Chicoutimi, et IVIRTIVIC, basée à Montréal. La première aide les communautés autochtones à préserver et à promouvoir leur patrimoine culturel. La seconde est une initiative de l'administration régionale Kativik, qui représente la majeure partie de la région du Nunavik, dans le nord du Québec, où vivent environ 10 000 personnes. Le vice-rectorat aux communautaires, à l'international et au premier peuple de l'Université de Montréal, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, ont aussi apporté leur soutien au projet, financé dans le cadre du plan d'action « Place au premier peuple » de l'UDM. Une grande fierté. Je suis très fier de ce projet, dont l'objectif est de contribuer à la valorisation et à la reconnaissance des perspectives, des savoirs et savoir-faire autochtones, déclare Kevin Péloquin, également chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'UDM. Le volet principal du projet consiste en une série d'enregistrements audiovisuels des rencontres que nous avons tenues en mars et en mai 2025 avec 7 experts culturels autochtones venus voir la collection ethnographique. Les échanges que nous avons eus ont été riches en enseignements, raconte-t-il. Publiés en ligne, les enregistrements présentent des perspectives autochtones sur les objets culturels et sont accessibles non seulement aux étudiants et étudiantes en éducation, mais aussi à l'ensemble de la communauté de l'UDM ainsi qu'au grand public. Il y a 9 entretiens complets, dont 2 avec 3 participants inuits. Les entretiens vidéo sont désormais intégrés au cours de didactique de la géographie et de l'histoire, afin que les étudiantes et les étudiants puissent concevoir des méthodes permettant d'enseigner les différentes perspectives, connaissances et compétences des premiers peuples dans les écoles primaires et secondaires, dit Kevin Péloquin. Pour l'instant, le matériel est presque entièrement en français, avec des sous-titres en français, mais le chercheur espère obtenir un financement pour réaliser des traductions complètes en anglais afin que les écoles et les communautés anglophones et francophones puissent en bénéficier de façon équitable. Tout objet a son utilité propre. Dans une série de courtes vidéos, 7 porteurs de savoir issus des communautés Atikamekw, Nihiro-Wissi, Innu et Inuit ont communiqué des informations et raconté des souvenirs liés à des objets qu'ils ont manipulés et choisis dans la collection ethnographique du département d'anthropologie de l'UDM. Voici des extraits de quelques-uns de leurs témoignages. Les objets représentent les meilleures façons de faire à une certaine époque. ils sont le fruit de plusieurs années d'amélioration et nous amènent à réfléchir sur la façon de fabriquer, sur les technologies utilisées. Lorsque vous analysez ces objets et en apprenez un peu plus sur leur conception, vous comprenez que c'est un éventail complet. Le couteau croche, par exemple, est croche pour une bonne raison. Ça a l'air primitif, mais ce ne l'est pas. C'est vraiment très ingénieux. Samuel Saint-Onge, Inou. Tout objet qui est là a son utilité propre. Quand j'étais petit, la maison était un temple. L'odeur du sapin, l'odeur de la cuisine de ma mère. Ma mère me faisait des mocassins, ma grand-mère me contait des histoires, mon grand-père me contait sa vie, celle des siens, qui ont été chez nous. Ellipse. Le bouleau a différentes épaisseurs d'écorce. Certaines sont minces, d'autres plus épaisses. C'est souvent au début de l'été qu'on allait cueillir les matériaux nécessaires à la confection des canaux. Jacques Newashish, Atikamekw, Nihiro ici. Les objets que nous voyons ici nous ramènent à des endroits, des souvenirs, des lieux. On apprend beaucoup de choses. C'est important de transmettre des savoirs et savoir-faire sur ces objets, même s'ils sont loin des champs d'intérêt des jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes doivent connaître pourquoi ces objets sont sacrés, respectés. Le harpon, par exemple. Il y en avait un communautaire, planté sur le côté de la rivière. Vous vous en serviez et vous le remettiez sur le bord de la rive pour les autres familles. C'était un outil communautaire, tout comme la louche en écorce de bouleau. Jean Saint-Onge, Inou. C'était « Redonner vie au patrimoine autochtone », un texte de Jeff Heinrich, paru le 16 février 2026 sur le site de l'UDM.
Les anglophones doivent aussi protéger le français. Un texte de Mario Polez, paru le 14 mai 2026 dans La Presse. Depuis les crises linguistiques des années 1960, la communauté anglophone du Québec s'est systématiquement opposée aux lois linguistiques, présentées régulièrement comme des atteintes aux droits fondamentaux. Est-ce possible de sortir de cette dynamique stérile? Que nos compatriotes anglophones n'accueillent pas les lois linguistiques avec enthousiasme se comprend. Cependant, un changement de ton s'impose. Nos compatriotes doivent comprendre pourquoi l'État québécois se trouve dans l'obligation de légiférer en matière de langue. Cette pédagogie ne peut venir que des leaders d'opinion de la communauté anglophone. Les anglophones victimes de leur langue. L'éléphant dans la pièce est la montée fulgurante de l'anglais, devenue aujourd'hui la langue de la planète, depuis notamment l'arrivée de l'Internet. Les anglo-québécois sont les victimes de la force de leur langue. Ils ont la chance de posséder la langue planétaire. Mais en contrepartie, cette chance leur impose un devoir de réserve face aux Français moins forts. Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre la langue anglaise, bien au contraire. L'auteur de ces lignes est arrivé des États-Unis il y a 50 ans. J'ai appris le français que j'emploie depuis comme ma langue publique de préférence. Bien sûr, les anglophones de Montréal forment une minorité craintive quant à ces droits, mais leur langue agit comme une langue majoritaire. Je le constate quotidiennement dans mon quartier montréalais de Notre-Dame-de-Grâce. L'anglais est la langue par défaut des jeunes, grands consommateurs de contenu numérique. Que le français soit fragile ne devrait plus faire l'objet d'un débat. Prétendre le contraire en citant telle ou telle statistique, c'est regarder uniquement la moitié du tableau. Si le français est resté la langue majoritaire dans le Grand Montréal, c'est en raison de la loi 101. Le dilemme du législateur québécois. Ce serait tellement plus facile si la langue de la minorité n'était pas l'anglais. Si le législateur québécois accordait les mêmes droits aux deux langues, la plus forte l'emporterait fatalement. C'est une règle simple de la démolinguistique. C'est ce qui s'est passé dans les années 1960 avant la loi 101. Une grande majorité des parents immigrants envoyaient leurs enfants à l'école anglaise. Parenthèse, bien qu'il y ait eu aussi de nombreux cas d'enfants d'immigrants refusés par les écoles francophones. Fin de parenthèse. Qui d'ailleurs pouvait les blâmer de choisir la langue la plus forte? Pour rétablir l'équilibre linguistique, le législateur québécois s'est vu dans l'obligation de restreindre le droit à l'école anglaise ainsi que le droit de travailler en anglais et d'afficher en anglais. Faut-il s'étonner que la loi 101 ait été dénoncée par la communauté anglophone? Revenons à aujourd'hui. Le législateur québécois doit à la fois assurer la protection de la minorité anglophone et assurer que ses droits n'ouvrent pas aussi la porte à l'anglais à d'autres populations, dont les immigrants. C'est cette mission quasi impossible qui a malencontreusement conduit le gouvernement Legault à inclure des dispositions de facto inapplicables, pour ne pas dire franchement mauvaises, dans la loi 96. Je pense à l'interdiction imposée aux fonctionnaires de traiter dans une autre langue que le français avec les immigrants arrivés depuis plus de 6 mois. Ou encore aux malheureuses directives envoyées, en juillet 2024, par le gouvernement aux hôpitaux de Montréal déterminant qui a le droit de recevoir des soins en anglais. À la suite de la levée prévisible de boucliers du milieu anglophone, le gouvernement a, heureusement, fini par retirer ces directives. Quel médecin, quelle infirmière refuserait de traiter un patient en anglais? L'anglais restera une langue d'usage dans les hôpitaux de Montréal. Une langue commune aux deux communautés. Nous nous retrouvons donc dans une dynamique de confrontation où, d'une part, les anglophones défendent le droit d'utiliser leur langue dans l'espace public et, d'autre part, un État québécois qui cherche, vainement, à baliser ce droit. Il suffirait de quelques mauvaises nouvelles pour la santé du français, par exemple lors du recensement de 2026, ou encore un autre discours de Michael Rousseau, pour que le législateur québécois se sente obligé d'introduire de nouvelles mesures pour réduire la place de l'anglais, suivi inévitablement par des dénonciations du côté anglophone. Pour la communauté anglophone, la meilleure police d'assurance de leurs droits est un État québécois qui n'a plus besoin d'intervenir pour protéger le français. Seule la communauté anglophone peut créer les conditions nécessaires, à savoir un paysage linguistique où l'utilisation prioritaire du français dans l'espace public devient la règle, en particulier à Montréal. L'effet de démonstration sera immédiat. Pour les migrants, dès son arrivée, le message sera clair. Le français est ici la langue commune, même les anglophones l'utilisent d'abord dans l'espace public. Je demande peut-être l'impossible. Je rêve d'un Montréal où parler français est un objet de fierté citoyenne pour mes compatriotes anglophones. N'est-il pas dans l'intérêt de tous de protéger le français? Le Québec serait-il toujours la province la plus heureuse du pays sans le français? C'était « Les anglophones doivent aussi protéger le français », un texte de Mario Polaise paru le 14 mai 2026 dans La Presse.